Chers auditeurs de Radio Maria, bonjour. Nous reprenons le fil de nos entretiens dans ce grand plan de l'évangile de la famille. Et nous continuons la rencontre avec ce péché originel et ses conséquences. La dernière fois, nous avons vu ce qu'était ce péché originel dans le cœur de l'homme. Nous avons vu que dans l'homme et la femme avaient été mis en doute au plus profond de leur cœur, dans leur intime. Ils avaient mis en doute l'amour de Dieu. Ils avaient mis en doute le don, la signification même du don. Ils avaient mis en doute que Dieu les aime et leur donne les choses. Ils avaient quelque part refusé leur état de créature, refusé d'être une créature qui reçoit de Dieu. Et ils avaient douté de l'amour de Dieu, de l'amour créateur de Dieu. Ainsi, en mangeant le fruit de l'arbre, ils prennent le fruit qui est défendu, et en prenant le fruit, ils ont douté que Dieu leur avait interdit pour leur bien. Ils ont douté que Dieu les aime. Et ce n'est pas une expérience simplement originelle, c'est une expérience que l'on peut vivre aujourd'hui. Je peux douter que Dieu m'aime. Je peux douter que ce que Dieu a fait, ce que Dieu me dit, c'est pour mon bien. Je peux douter que ce que l'Église me dit, l'Église qui est mère, je peux douter que ce que l'Église me dit est pour mon bien. Ainsi, en doutant de l'amour, eh bien en fait, c'est... Je tourne le dos à Dieu, puisque Dieu est amour. Donc si je refuse que Dieu m'aime, eh bien, de penser que Dieu m'aime absolument, totalement, eh bien, ça veut dire finalement que je lui tourne le dos. Et si je me tourne le dos, je tourne le dos à Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que je vais me tourner vers ce qui reste, c'est-à-dire vers le monde. Ainsi, l'homme et la femme, tournant le dos à Dieu, vont se tourner vers le monde. Et aujourd'hui, donc, nous allons essayer de voir toutes les conséquences de ce péché originel. Les conséquences du péché originel, et en particulier la honte, cette honte qui monte dans le cœur de l'homme et de la femme après le péché. Nous allons voir que est perdue aussi une harmonie, l'harmonie entre l'homme et Dieu, l'harmonie entre l'homme et lui-même, l'harmonie entre l'homme et la femme, une harmonie entre l'homme et la création tout entière, une harmonie, une honte cosmique. Et ça, c'est ce qu'on peut vivre tous les jours, on a ces conséquences, parce que dans ce péché originel monte en nous cette fameuse concupiscence dont parle saint Jean, les trois concupiscences, et ça nous avons vu la dernière fois, les trois concupiscences, concupiscence de la chair, c'est-à-dire le désir de prendre l'autre, le désir charnel, ou bien gourmandise, la concupiscence des yeux, le désir de posséder, et la concupiscence, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire le désir de la gloire. Et donc, nous allons voir toutes les conséquences donc, de ce péché originel à partir du texte de la Genèse 3, de la suite de la Genèse. Alors, regardons un petit peu, cher ami Radio Maria, regardons un peu ce que dit ce texte de la chute. Donc, nous en sommes, l'homme et la femme, ça y est, ils viennent de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont été tentés par le démon. Ils ont trouvé que ce fruit avait l'air fort désirable puisqu'il leur donnait le discernement. Et donc, il allait leur apporter d'être, selon la parole de Satan, d'être comme des dieux et de pouvoir dire ce qui est bien et le mal, pouvoir dire par eux-mêmes ce qui est le bien et le mal sans dépendre de Dieu. On aime bien ça, pouvoir dire nous-mêmes, oui, moi je décide que faire ça c'est bien, et personne d'autre va décider à ma place, et puis pourquoi quelqu'un dirait à ma place, pourquoi il y aurait un bien absolu, pourquoi il y aurait une vérité absolue, moi je dis que ce qui est vrai c'est ce que je pense, et à la limite chacun pense ce qu'il veut, et la vérité est très relative, vous voyez, on peut penser ça. On peut penser que chacun a sa vérité. Moi, je décide que c'est bien. Par exemple, de prendre telle chose à mon voisin, de le faire payer le plus cher possible le terrain que je suis en train de lui vendre, parce que je décide que chacun dans ce monde profite au maximum de ses biens et essaie de bénéficier le maximum de choses, de gagner le plus d'argent possible. Et donc c'est normal, tout le monde fait pareil. Et je décide que c'est bien comme ça. Vous voyez, c'est une expérience de tous les jours, ces trois concupiscences. Une expérience fondamentale dans la vie de chacun. Alors, dans le texte de l'origine, l'homme et la femme ont mangé du fruit. Alors, au verset 7 du chapitre 3, alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Dieu, devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme. « Où es-tu ? » dit-il. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, » répondit l'homme. « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Il reprit, Dieu reprit, « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et je l'ai mangé. » Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Alors Yahvé Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'atteindra la tête et tu l'atteindras au talon. » À la femme, il dit, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. » Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi des épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. » Vous remarquez au passage qu'il y a deux malédictions, maudit soit le serpent et maudit soit la terre, mais l'homme ne maudit pas l'homme et la femme, jamais. Il ne dit rien de cela envers l'homme et la femme. Alors vous voyez, alors tous les deux, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et donc, ils voient, première conséquence de ce péché originel, ils voient qu'ils sont nus. Ils voient, ils découvrent leur nudité. Mais alors, l'unité, la nudité, c'est, ils étaient déjà nus. Non, ils découvrent qu'ils sont privés de Dieu. Ils se découvrent qu'ils sont privés de l'amour, de la participation au don. Ils découvrent qu'ils sont privés de ce don originel et ils vont perdre la plupart des, comme on dit, les dons préternaturels de pouvoir, de ne pas souffrir, l'intégrité, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se revêtent, ils cousent des feuilles de figuier, se firent des pagnes. La nudité n'est plus possible. La nudité, du coup, il faut qu'ils s'habillent. Il faut qu'ils se cachent. Et on voit un petit peu plus loin, ils entendent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin et ils se cachent devant Dieu. Ils se cachent l'un devant l'autre en faisant des vêtements avec des feuilles de figuier. Et puis, ils se cachent aussi devant Dieu, puisqu'ils se cachent dans le jardin. Et pourquoi ils se cachent? On se cache parce qu'on a honte. C'est-à-dire quand dans leur cœur monte une honte. Une honte. On dirait qu'ils ont honte. Honte de quoi? Ils ont honte de leur péché. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte de cette concupiscence qui monte en eux. Parce que avec ce péché, voilà ce qui arrive, c'est la concupiscence qui arrive. Le désir de chair, le désir de posséder, l'orgueil, le désir de pouvoir. Et quand ils voient ça monter en eux, ils voient cette concupiscence monter en eux, ils en ont honte. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Et puis, ils se cachent parce qu'ils voient que eux, cette concupiscence, ces désirs montent en eux, et ils voient que ce désir monte en l'autre aussi, et du coup, l'un envers l'autre, ils éprouvent vraiment le besoin de se cacher, parce que je me cache, parce que j'ai peur que l'autre désire me posséder. Je sais que l'autre a ce désir de me posséder qui monte en lui, et du coup, je me protège, hein, et je me protège de l'autre, je me cache. Cette honte, voilà, c'est une manifestation de ce qui vient du monde. La première manifestation de ce qui vient du monde. Cette honte, c'est une peur. J'ai honte de moi, mais elle manifeste aussi que j'ai peur. J'ai peur de l'autre, j'ai peur de... Et puis, j'ai honte devant Dieu, ça veut dire aussi que j'ai peur de Dieu. Vous savez, devant Dieu, il y a deux sortes de peurs, de craintes. Il y a la crainte servile, cette peur d'être puni. Effectivement, l'homme, il a peur de Dieu parce qu'il sait qu'il a péché et il a peur d'une punition. L'homme de l'origine, c'est cette peur-là qu'il a, une peur servile, une crainte servile. Il a peur d'être puni. Un enfant qui a peur d'être puni. Et ça mène à quoi, cette peur d'être puni? Eh bien, ça mène à un mensonge. Et l'homme dit, Dieu appelle l'homme, et l'homme dit, j'ai entendu ton pas dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. Et cette peur qu'il a d'être puni, l'incite au mensonge. Il accuse le corps, alors que le corps est complètement innocent, le corps n'a rien à voir avec son péché. Non, c'est son péché, c'est à cause de son péché, parce qu'il a... Il s'est détourné de Dieu, qu'il n'a pas fait confiance en Dieu, qu'il a voulu prendre le fruit par lui-même. C'est pour cela qu'il est pécheur. Et c'est ça qui fait qu'il a honte et qu'il a peur de Dieu. Et il accuse le corps. Mais non, le corps. Vous voyez, on en croirait dans une école avec les enfants. Ah, hein? Oh, c'est pas moi, c'est mon corps. Hein? On voit un enfant faire quelque chose qui est mauvais, il a envoyé une boulette sur son voisin. Ah non, non, c'est pas moi, c'est ma main qui a envoyé. Moi, je suis pas, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis on va dire après, mais tout le monde fait pareil, il n'y a pas que moi qui le fait. Non, non, c'est pas moi qui fais ça. Du coup, l'homme ne s'assimile plus à son corps. Il se produit comme une dissociation. Je me dissocie de mon corps. C'est pas moi qui ai fait ça. Et puis, il a cette honte, il a une honte vis-à-vis de l'autre. Il y a une perte de l'harmonie vis-à-vis de la femme. Et parce que il sait que la concupiscence, ce désir monte en lui, et il sait que le désir monte en l'autre, et ils éprouvent le besoin de se protéger l'un de l'autre. Et on va voir que cette protection l'un de l'autre, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est la pudeur qui va permettre de se protéger l'un de l'autre et d'établir une relation l'un avec l'autre. La pudeur, finalement, c'est quelque chose qui va permettre de retrouver une relation entre les deux, entre l'homme et la femme, et entre les personnes. Mais on en est à cette concupiscence et puis à cette nudité, puisque ils virent qu'ils étaient nus. Cette nudité qui produit, une fois qu'ils voient qu'ils n'ont plus le don de Dieu, parce qu'ils ont refusé l'amour comme source du don originel, ils voient qu'ils n'ont plus ça. Ils ont perdu ce sens du don, ce sens de l'amour. Ils ont perdu aussi le vrai sens du corps comme don. Et ils sont comme déracinés. Et montent en eux une sorte d'angoisse aussi. Ils ne sont plus enracinés dans l'amour. Ils sont blessés. Il se produit une blessure profonde, très profonde en eux. Le péché originel produit une blessure. Mais attention, la blessure, c'est une blessure profonde, mais ce n'est pas une perte complète de notre nature humaine. C'est-à-dire que là, ben, on va parler de ça tout de suite, de qu'est-ce qu'il en est de la liberté de l'homme à cause de ce péché. Alors l'homme a peur et il se voit nu, c'est-à-dire il a perdu le sens du don, il s'est détourné de Dieu et il a peur de Dieu puisqu'il se cache dans le jardin et sa peur et sa honte conduisent au mensonge. Il accuse son corps. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu d'ailleurs le reprend tout de suite. N'aurais-tu pas, et qui t'a appris que tu étais nu? Tu aurais donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, dit Dieu. C'est-à-dire que Dieu le recadre. Non, non, c'est pas ton corps qui est fautif. Le corps est complètement innocent. Le corps est innocent. C'est notre péché, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé dans notre cœur. Le Christ nous le dit bien, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes qui est fautif. C'est pas ce que nous mangeons qui est mauvais, c'est ce qui sort de nous qui est mauvais. C'est ce qui vient de notre cœur. Et là, ce qui est pas bon, c'est ce qui est dans le cœur. C'est ce qui vient du fond du cœur de l'homme qui est mis en cause par Dieu parce que c'est là. Le cœur, notre intime, le centre de notre personne, le lieu, et finalement c'est là le lieu de nos décisions, de notre volonté. Et c'est là, dans le cœur, en notre centre, dans notre profondeur humaine, c'est là qu'a lieu le péché. Et c'est là que Dieu veut nous rejoindre, c'est là que Dieu nous interpelle. Et il le fait dès l'homme originel. Il lui dit, c'est pas ton corps le problème. Le problème, c'est dans ton cœur. C'est le péché que tu as commis dans ton cœur. Et l'homme ne contredit pas, il dit pas. Et par contre, il essaie encore de détourner l'attention et encore de dire, mais non, c'est pas moi, c'est elle. c'est pas ma faute à moi. C'est quoi? On entend facilement dire ça. C'est pas ma faute à moi. Il y a même une chanson. C'est pas ma faute à moi. Et les enfants vont dire facilement, c'est pas ma faute à moi. C'est elle qui m'a donné la boulette pour l'envoyer sur mon camarade. C'est elle qui m'a donné c'est lui qui m'a donné le gâteau et je l'ai mangé. Alors qu'il fallait pas le manger, il fallait attendre que les invités arrivent. C'est la faute des autres, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si j'ai fait un truc mal. Combien de fois on entend ça? Eh bien, Adam, dès le début, dès l'origine, il dit c'est pas ma faute, c'est la femme. En plus, il accuse Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Voilà. Il a perdu le sens du don. La femme qui lui était donnée, qui était un vrai cadeau. Le sens du don, il reconnaissait que c'était un cadeau merveilleux. Il avait le sens du don reçu. Il avait le sens que la personne était un don. Il avait le sens qu'il était un don pour elle. Un don pour se donner totalement à elle. Et là, la femme que tu m'as donnée, ça veut dire que la femme, ce n'est plus un cadeau, ce n'est plus vraiment le don. On pense dans un couple aussi, quand on dit un enfant a fait quelque chose de mal, ah, tes enfants, vous imaginez, mes enfants, il y en a un qui a fait une bêtise parce qu'il a fait quelque chose, je ne sais pas moi, il a fait une bêtise. Il a cassé quelque chose. Ah, tes enfants, ton enfant, il a cassé ça. On accuse sa femme, alors qu'elle y est pour rien, absolument pour rien. On accuse l'autre. Et la femme fait la même chose. Quand Dieu s'adresse à la femme, alors Dieu lui dit, mais qu'as-tu donc fait? Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Il m'a séduite, c'est lui, c'est sa faute. Et alors Dieu maudit, il maudit le serpent. Et ensuite, par contre, à la femme, il lui dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Ce n'est pas une malédiction. En fait, il lui donne les conséquences de son péché. Il y aura une hostilité entre toi, entre le serpent et toi. Tes grossesses se feront dans la peine, tu enfanteras des fils dans la peine. Et tu auras une convoitise qui te poussera vers ton mari, et lui exercera une domination sur toi, lui aussi. C'est-à-dire qu'il annonce les conséquences de leur péché. L'homme va chercher non plus à se donner, puisqu'il aura perdu énormément, il aura perdu le sens du don, le sens du corps comme don. Et donc il va rentrer dans, il a la concupiscence, c'est-à-dire le désir de prendre. Et le désir de dominer va entrer en lui, et il aura ce désir de dominer par rapport à la femme. Et la femme, elle aura aussi un désir de prendre, qui se traduit par une convoitise, une autre manière de prendre son mari. Et donc voilà les conséquences. Il leur annonce toutes les conséquences de leur péché. Et il maudit ensuite le sol. Rendez compte, le sol, c'est-à-dire que la création subit une malédiction à cause du péché de l'homme. Et l'homme va devoir tirer sa subsistance du sol, il va devoir travailler à la sueur de son visage, et il mangera son pain à la sueur de son visage. Et il en tire une disharmonie entre l'homme, la création subit le péché, et l'homme, quelque part, ne comprend plus. L'homme qui dominait la création, l'homme qui maîtrisait parfaitement la création, l'homme qui connaissait parfaitement, vous vous rendez compte, il connaissait les animaux, c'est-à-dire qu'il était capable de les gérer, il était capable de gérer la terre pour qu'elle porte un beau fruit et qu'elle grandisse de façon harmonieuse, joyeusement, dans la paix. Vous imaginez une belle agriculture, en quelque sorte, une agriculture raisonnée, on pourrait dire bio, belle, où les plantes poussent de façon belle, de façon ordonnée. L'homme a mis de l'ordre dans la nature. Les plantes, tout ce qui plante, ça se fait de façon belle. les fruits sont des beaux fruits parce que l'homme sait bien faire pour entretenir. Il emploie des produits, il connaît tous les plantes et les animaux, donc au lieu de mettre des produits chimiques, il saurait utiliser les bonnes insectes, comme parfois on arrive à le faire un petit peu, mettre les bons éléments, aller chercher les insectes qui viennent manger les champignons qui abîment les feuilles. Il saurait faire ça de façon hyper harmonieuse. Et cette nature se développerait de façon belle. Elle serait de plus en plus belle. Et bon, et au lieu de ça, l'homme se retrouve soumis de travailler dans la sueur. Il ne comprend plus cette nature. Et même cette nature qu'il dominait quelque part, eh bien, il se sent dominé par elle. Une des conséquences de ce péché originel, c'est que par rapport au monde, c'est que la domination par rapport à la nature est comme inversée. Il a l'impression que la nature lui est hostile et que la nature le domine. Et puis alors, qu'est-ce qu'il en est de la liberté? L'homme a-t-il perdu vraiment sa liberté? Certains ont pu penser que l'homme n'a pas du tout perdu sa liberté. L'homme peut se diriger lui-même par lui-même, et donc quelque part on peut penser que l'homme, à la suite de ce péché originel, peut se sauver par lui-même. Hein? Moi, avec mes gros bras musclés, je me sauve et je vais aller au ciel parce que je vais faire plein d'efforts, j'en suis capable, je vais me maîtriser. Hein? Ça s'appelle du pélagianisme, hein, de Pélage. Hein, ça date du 5-6e siècle. Je peux atteindre le salut sans la grâce. Je n'ai pas besoin du Christ. Je peux, par mes propres efforts, en faisant mes efforts moi-même, je peux arriver à me sauver. Et par contre, ça a été complètement condamné au concile de Carthage et d'Éphèse vers le 5e siècle, concile d'Éphèse 431. Mais on a retrouvé après ça jusqu'au siècle des Lumières, chez Rousseau par exemple, qui est condamné par l'Église aussi. Non, évidemment, en tant que chrétien, je sais que je ne me sauve pas par moi-même, je sais que c'est le Christ qui me sauve, je sais que c'est Dieu qui me sauve. Mais ça n'empêche pas que j'ai à fournir les efforts, à participer, et j'ai à faire tout mon possible. Mais c'est Dieu qui sauve. Alors nous disions que l'homme peut être tenté de dire je me sauve tout seul, le pélagianisme, avec mes gros bras musclés, je vais arriver à me sauver, à faire que je m'en sors tout seul. Et c'est à la suite du péché originel, je crois que je n'ai pas besoin de Dieu, je peux me débrouiller tout seul. Et ça aussi c'est une tentation dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai une difficulté, voilà, j'ai un problème. Même parfois très concret, j'ai quelque chose qui est abîmé à la maison, j'ai une tuyauterie, oh, je vais me débrouiller tout seul, je vais réparer la tuyauterie de mon lavabo tout seul, hein, j'ai besoin de personne, hein, et je vais y arriver, hein, je suis très fort, je regarde des tutoriels sur Internet et je vais y arriver. Et puis, ça amène parfois à une catastrophe. En catastrophe, je finis par appeler le plombier, qui, lui, vient m'aider, vient me sauver quelque part, de mon problème matériel. On a besoin, ça c'est fondamental, on est complètement dépendant, on est interdépendant, on est dépendants les uns des autres. Et le fait de croire qu'on est complètement indépendant, et quelque chose qui relève de ce péché originel, être complètement indépendant, être capable de dire, ben, je me débrouille absolument tout seul, par moi-même, je n'ai besoin de personne ni de rien. Eh bien, on voit assez vite que c'est pas possible, et cela mène à une solitude qui est une souffrance. Et il y a une autre façon de regarder les choses, c'est de dire, ben, il n'y a rien à faire, il n'y a que la grâce. Je suis perdu, j'ai péché, l'homme a péché. Quelque part, je considère qu'il a perdu sa nature. C'est-à-dire que ma nature humaine est complètement perdue. La grâce est absolument indispensable. Je suis prédestiné maintenant par Dieu. J'irai vers le bien ou j'irai vers le mal, mais là, je suis complètement. Je suis perdu. Et là, du coup, quelque part, je considère que je n'ai plus de liberté. Je n'ai pas de liberté puisque je suis destiné vers le bien ou vers le mal. Hein, et puis mon corps, c'est quelque chose de très dangereux. Mon corps est quelque chose qui me mène au péché, parce que ma nature est mauvaise. Eh bien, ça, c'est du jansénisme. Je considère que ma nature est mauvaise, que mon corps est mauvais. Je me méfie de mon corps, je me méfie du corps des autres. Attention, attention, je ne vais pas avoir. Oh là, si je commence à avoir de la tendresse avec mes proches, c'est risqué parce que je suis mauvais fondamentalement. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est aussi une conséquence à l'inverse. Et là, c'est le Concile de Trente qui a condamné ça. Concile de Trente, 1563. Le Concile de Trente nous dit que la liberté, notre liberté n'est pas enlevée. Elle est juste affaiblie. Elle est juste affaiblie. Et nous recevons l'Esprit Saint. Nous avons exercé notre vertu et l'Esprit Saint se donne. Nous recevons les dons de l'Esprit Saint par les mérites du Christ et alors nous sommes sauvés. Mais nous sommes dégradés, mais nous ne sommes pas détruits. La concupiscence n'est pas détruite. Dieu, c'est amusant parce que dans le texte bénédiction du mariage, la seule bénédiction qui est passée à travers le péché originel, la bénédiction de l'union, la bénédiction de l'amour entre les époux. Parce que cette union est vraiment ce qui nous fait ressemblance. Hein, l'amour dont on est capable les uns envers les autres, la communion d'amour dont on est capable les uns envers les autres, fait principalement notre ressemblance à Dieu, à l'amour qu'il y a entre les personnes de la Trinité. Et donc, nous avons un défaut, notre nature est dégradée, mais elle n'est pas détruite. Il y a une carence, et c'est la concupiscence qui s'ensuit. Et donc, c'est dans le cœur de l'homme que se passe tout le problème. C'est dans le cœur de l'homme que se passe. Et donc l'homme, il se voit nu, il se voit nu. Ça veut dire qu'il voit son corps bizarrement. quelque part, la plénitude qu'il avait avant, la pleine acceptation du corps dans toute sa vérité, ça, c'est perdu. La nudité exprimait cette pleine acceptation, exprimait la plénitude de la vision du corps selon Dieu, qui Dieu voyait le corps comme qui rend visible l'amour et qui appelle au don l'un de l'autre. Là, c'est fini. Et le corps qui signifie la personne, une différence avec l'animal, le corps qui signifie la personne, qui signifie une différence avec l'animal, eh bien, ce corps était une composante limpide. Et le corps disait notre donation entre les personnes, notre donation réciproque. Il porte en lui l'image de Dieu. Dans notre corps, nous avons l'image de Dieu, la certitude que nous sommes image de Dieu. Et puis, il vient le Christ qui fait de nous des fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous le sommes vraiment. Je suis le fils de Dieu. Et ça me rend proche de Dieu. Ça me rend proche de Dieu. C'est le Père Quentin La Messa qui dit, la différence ontologique entre Dieu et l'homme est plus petite que la différence ontologique entre l'homme et la création. Et donc après le péché, le rapport à soi a changé, puisque l'homme voit son corps complètement différemment, il se perçoit complètement différemment, il perçoit le monde de façon complètement différente, parce que je viens de dire, il perçoit la création et il ne la comprend plus, il se sent dominé par la création, parce qu'il est complètement dépassé. La vérité des choses, il aperçoit plus très bien. La vérité de son corps, le sens de son corps, le don, il le comprend plus très bien. Il est complètement perdu. Alors il se cache. Ce fait de se cacher, ça exprime une espèce de peur. Il se cache à lui-même, il se cache à la femme, il se cache devant Dieu. On pourrait dire qu'il se cache devant la nature aussi. Il a perdu le corps qui donnait la certitude qu'il est image de Dieu, ce par quoi il est image de Dieu. Et il a perdu le sens de son corps. Et là, maintenant, il se trouve soumis aux éléments. Il se retrouve comme soumis à cette création et il commence à en avoir peur. Il a l'impression d'être étranger. Il est étranger, il se sent seul et il a la honte. Il a honte en lui, il a honte, on a honte dans la sexualité. Il a honte du corps. Il a l'impression que son corps et son esprit sont détachés. C'est pour ça qu'il a honte du corps. Le corps qui était spiritualisé, il a l'impression que le corps est ailleurs. Et puis on en vient à dire que je ne suis pas mon corps, alors que mon corps, c'est moi. Ce que vit mon corps, je le vis. Il y a cette honte, c'est une sorte d'inquiétude de l'homme. Une inquiétude par rapport à son corps parce qu'il sent qu'il a du mal. On a nos pulsions qui montent, ce désir qui monte en nous et on a du mal à se posséder, on a du mal à la personne, on a du mal à s'auto-posséder. Et pourtant, en nous, on a ce désir de don de soi, on a ce désir de se posséder parce que cette autopossession, ce fait de se maîtriser, de se contrôler, ce n'est pas un contrôle, comment dire, ce n'est pas un contrôle qui enferme nos pulsions. C'est un contrôle, une gérance positive qui organise, qui les mène et qui permet de l'amener notre personne et d'entraîner toute notre personne dans le don de nous-mêmes. Et ça, c'est perdu. Et ça, c'est perdu. Et pourtant, on a ça, on a ce désir de possession de nous, on a ce désir en nous depuis l'origine. Le désir est resté. On a comme cet écho lointain. L'innocence originelle, on a ça qui est inscrit en nous. Parce que par notre ressemblance à Dieu, est inscrit en nous ce désir, ce don de soi, ce sens du corps, pour le don de nous-mêmes. Et on a perdu un peu cette vision de Dieu qui est inscrite dans notre corps. On a perdu. Et le Christ, lui, vient. Et le Christ, il vient nous titiller, il vient s'adresser, et il vient toucher au cœur, parce que justement, il vient chercher au fond de nous pour que nous retrouvions ce sens du don et que nous travaillions. Alors, ça devient un travail, que nous travaillions pour le don de soi, que ce soit en écho, en pensant, en ayant cette image de cette innocence originelle au fond de nous. Le Christ vient s'adresse à notre cœur, et c'est là que tout se joue. Dans notre cœur, il y a cette espèce de combat. Ah, je désire, j'ai la concupiscence, et en même temps, j'essaie de travailler à me maîtriser mes pulsions, ce qui monte à l'intérieur de moi-même, et puis j'organise aussi mes relations avec les autres, et vient la pudeur, une espèce de pudeur et donc il y a ce combat entre à l'intérieur du corps, entre le désir du bien, entre un bien et le désir de donner, le désir de prendre. Combat entre concupiscence et possession. Et bien la semaine prochaine, nous continuerons à développer qu'est-ce que c'est que cette pudeur plus précisément, et puis nous continuerons avec la honte, et puis dans notre cœur. Et puisqu'il en est de la signification du corps dans la personne humaine à suite au péché, concrètement. Voilà. Alors nous pourrions relire ce texte de la Genèse, Genèse 3, et puis essayer de voir dans ma vie, qu'est-ce qui, de tous les jours, qu'est-ce qui se révèle, correspondant à qu'est-ce qui dans ma vie relève de quelque part de ce péché originel, et qu'est-ce que ça interpelle dans ma vie, ce péché, et puis cette honte, et en quoi j'ai la honte intervient, en quoi la honte se manifeste dans ma vie de tous les jours maintenant. On se retrouve la semaine prochaine et je vous remercie.